حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
موضوع الخطبة أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، في بر الوالدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر ولم يدخل الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، واعلموا أن سخط الله في سخط الوالدين، وأن رضاءه لا يكون إلا إذا رضي عنكم آباؤكم. ولا شيء يزيد في العمر ويبارك في الرزق مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، وعند الله آجالكم وأسماؤكم. وقد أمرتم بما أمرت به أنبياؤكم، وما من نبي إلا وقد أمر ببر والديه، كما جاء ذلك في محكم الآيات. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وقال عيسى ابن مريم لقومه: إني عبد الله آتاني الكتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرًا بوالدتي، ولم يجعلني جبارًا شقيًا. وقال إبراهيم لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا. وقال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات. أيها المسلمون، إن شكر نعم الله يكون بحمد الله عليها وصرفها فيما يحب تعالى ويرضى، وشكر المحسنين من عباده يكون بالمكافأة في حال القدرة وبالدعاء بالخير في حال العجز. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مربياً ومرشداً معلماً: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه. واعلموا عباد الله أن الأولين بعد الله الواحد الأحد اللذين أنعما عليكم هما الوالدان الأم والأب، وأن الله كما أمر بشكره أمر بشكر الوالدين، وكما أمر بعبادته وحده مقابل إنعامه أمر بالإحسان بالوالدين مقابل إحسانهما. قال تعالى في سورة الأنعام: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكما أمر الله تعالى الإنسان بشكره لإنعامه عليه بخلقه ورزقه وتدبيره لحياته، أمر الإنسان بشكر والديه لإنعامهما عليه. ولا يحسب أن عاقلاً يجهل إحسان الوالدين لولدهما، وكيف يمكن هذا أيها المؤمن؟ وقد حملتك أمك 9 أشهر حملاً ثقيلاً، وحين ولادتها تقاسي بوضعك ألماً شديداً وعذاباً وبيلاً، وقد أرضعتك حولين كاملين، وكان صبرها عليك صبراً جميلاً، فكانت تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، وتتعب لتستريح أنت ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فطعامك ضربها أي حليبها، وبيتك حجرها، ومركبك ظهرها، وما تعد بكاءك إلا تسبيحا وتهليلا، تحن إليك وتهواك وتحيطك وترعاك، وإذا مت أو غبت عنها كرهت كل شيء سواك، وقد شغلت بك قلبها وجعلت عليك ربها حافظا ووكيلا. إن هذا الإحسان العظيم هو الذي أوجب الله تعالى به شكر الوالدين، وقرنه بشكره تعالى أن قال: أن اشكر لي ولوالديك، إظهارا لفضل الوالدين على الولد، وتأكيدا لوجوب هذا الشكر المفروض على الولد لوالديه. فعوا هذا عباد الله ولا تنسوه، واعلموا أيها المسلمون إن بر الوالدين والإحسان بهما قد تعددت فيهما الآيات، وتكررت فيهما الأحاديث الصحيحة الشريفة. فمن الآيات ما سمعتم من آية الأنعام وآية لقمان، واسمعوا آية الإسراء فإنها أجمع لبر الوالدين والإحسان بهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقد حكم ووصى بالإحسان بالوالدين كما حكم ووصى بعبادته تعالى وحده، ثم بيّن تعالى وجه الإحسان، وهو أن يوصلان بالخير وكف الأذى عنهما وطاعتهما في المعروف. فقال عز من قائل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنه عباد الله بعدما أوصى تعالى بالإحسان إلى الوالدين، وكان لفظ الإحسان مجملا، فصله بأنه كف الأذى عنهما حتى ولو كان كلمة أف، وإنه طاعتهما في المعروف، ودل عليه خفض الجناح لهما والترحم عليهما بعد موتهما، إذ قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولنستمع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين والإحسان بهما. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظروا كيف جعل بر الوالدين بين إقام الصلاة والجهاد في سبيل الله، ولا عجب، فإن إقام الصلاة شكر لله، والجهاد في سبيل الله كذلك، وبر الوالدين شكرهما، وهذا كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. اذكروا هذا عباد الله، واعلموا أن الولد مهما بذل في بر والديه لم يوفهما حقهما. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعلة هذا الخبر الصادق أن الوالدين وهب الولد الحياة، فمن هنا مهما بر الولد والديه لم يجزهما، أي لم يكافئهما على ما قدما له، إنه الحياة بكاملها. واعلموا عباد الله أن الأمة لما علمتم من مكابدتها الشاقة وتحملها الأتعاب في الحمل والوضع والإرضاع والتربية أحق بالبرور من الوالد، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الصفة. فيسأل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فيقول: أمك. فيقول السائل: ثم من؟ فيقول: أمك. ثم يقول: ثم من؟ فيقول: أمك ثلاث مرات. ثم يقول: ثم من؟ فيقول: أبوك. معاشر المستمعين، قد علمتم أن بر الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما من أوجب الواجبات، إذ هما في المرتبة الثانية بعد عبادة الله تعالى وتوحيده فيها، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واعلموا الآن أن عقوق الوالدين وهو أداهما وعدم طاعتهما ومنع المعروف عنهما من أعظم الذنوب ومن أوجبها عقوبة عذاب النار والعياذ بالله. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3 مرات. فقال جلساؤه من أصحابه: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فانظروا عباد الله كيف جعل عقوق الوالدين في المرتبة الثانية بعد الإشراك بالله تعالى، وذلك إشارة واضحة إلى ما قدماه من إحسان إلى ولدهما. إنه في عظمه بعد إحسان الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير، إذ هو ماؤهما وحمل الأم ووضعها وتربيتهما له من ولادته إلى بلوغه. لذا كان عقوق الوالدين سبباً لدخول النار، إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد سأله رجل قائلا: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. اللهم اجعلنا لك ولأبوينا شاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. La semaine dernière, nous avions vu l'importance de maintenir les liens du sang en soulignant qu'ils étaient une composante de ce que l'on appelle birrul walidain, l'obéissance ou plus généralement la bonté envers les parents, sujet auquel nous avions fait allusion sans vraiment le traiter spécifiquement. Le sujet d'aujourd'hui s'articulera donc autour du respect, de la bonté, de la bienfaisance envers les parents. La racine de laquelle dérivait le terme « shaytan » porte le sens d'éloigner, de détourner, de maintenir à distance. Et il faut savoir qu'il n'y a rien de plus exaltant et de plus jubilatoire pour « shaytan » que d'éloigner le croyant de sa famille, de ses parents, en faisant voler en éclats la cellule familiale. Cet effort de « shaytan » commence dès le moment où l'individu atteint l'âge crucial de la puberté. C'est la première étape de sa longue mission destructrice, puisqu'à partir de ce moment, chaque individu sain d'esprit devient responsable du moindre de ses actes, lesquels sont rigoureusement consignés dans son registre qui lui sera remis le jour du jugement. Cette période qu'est la puberté est généralement placée sous le signe de l'instabilité, car l'enfant devenu adolescent est en quête d'identité, en pleine affirmation de sa personnalité et facilement influençable. C'est précisément cette faille que Shaytan, attisant les passions de l'âme, va exploiter afin de l'éloigner progressivement de ses parents. Les premiers symptômes qui doivent alerter sont les problèmes de communication, les écarts verbaux, les gestes déplacés, amplifiés par les mauvaises fréquentations, les allées et venues de l'enfant qui rentre sans prévenir à des heures tardives, passant parfois la nuit hors du domicile. Tous ces problèmes, lorsqu'ils ne sont pas réglés, poussent l'adolescent, une fois adulte et jouissant d'une indépendance matérielle, à rompre définitivement avec sa famille. L'objectif de ce sermon n'est pas de dresser un sombre bilan des relations parents-enfants, ni de faire la liste des problèmes familiaux, mais plutôt d'éveiller la conscience de la jeunesse sur la bonté, sur le devoir de bonté que nous avons envers nos parents et le danger qu'il y a à se montrer ingrat envers eux, et ce, à la lumière des versets coraniques et des récits prophétiques. Le premier point qu'il est important de soulever est le fait qu'Allah, le Très-Haut, a ordonné aux meilleurs des hommes, à savoir les prophètes, de faire preuve de bonté envers leurs parents. En voici quelques exemples tirés du Coran. Ô Yahya, tiens fermement au livre, la Torah, nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, il était dévoué envers ses pères et mères et ne fut ni violent ni désobéissant. Quant au prophète Isa, voici ce qu'il dit à son peuple. Allah m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et l'aumône et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni misérable. Ibrahim, face à la mécréance de celui qui l'a élevé, dit avec sagesse, paix sur toi, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Enfin, le prophète Nuh invoqua en faveur de ses parents, Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. La deuxième chose qu'il est important de garder à l'esprit est le fait que les parents sont les deuxièmes après Allah Ta'ala à s'être montrés bienfaisants envers nous. En effet, ils sont la cause première par l'intermédiaire de laquelle Allah nous a créés. C'est à ce titre qu'il est dit dans Sourate Luqman, « Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents ». Dans ce verset, Allah le Très-Haut fait suivre le devoir de reconnaissance qui nous incombe envers lui pour tous les bienfaits dont il nous a comblés par le devoir de reconnaissance dont on doit s'acquitter envers nos parents. Et comment peut-il en être autrement alors même que nos mères sont passées de souffrance en souffrance, wahnan ala wahn, en commençant par la grossesse et toutes les perturbations que cela implique, puis les douleurs de l'accouchement, très vite oubliées au premier cri du bébé, puis l'allaitement. C'est pour ces trois étapes ô combien épuisantes pour nos mères que le prophète répondit au compagnon qui lui posa la question « Envoyé de Dieu, quelle est la personne qui a le plus droit à ma bienveillante compagnie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ta mère » et ensuite demanda l'homme « Ta mère » répondit une deuxième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite « Ta mère » répondit une troisième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite « Ton père » conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre récit authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos des droits du père, « Un fils ne saurait s'acquitter de la dette qu'il a envers son père, sauf si le trouvant réduit à l'esclavage, il l'achetait et l'affranchissait. » À d'autres endroits dans le Coran, Allah fait suivre sa stricte adoration par la bienfaisance que l'on doit témoigner à nos parents, ce qui constitue un message clair que nous allons expliquer par ce qui suit. Nous avions relevé la semaine dernière le fait que notre statut de croyant dépend de deux axes principaux. L'un vertical qui représente notre relation avec Allah, à la base de laquelle on trouve la prière, et un axe horizontal qui représente notre relation aux autres et en tout premier lieu nos parents. C'est pour cela que lorsque Ibn Mas'ud demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure des œuvres au regard de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit la prière accomplie en son temps et ensuite la bienfaisance envers les parents. Si l'axe horizontal est rompu, en l'occurrence par une mauvaise relation avec nos parents, c'est toute notre relation avec Allah qui en sera affectée, voire rompue. Dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit, le passage qui traite des parents dans Sourate Luqman est assez remarquable, tant sur le fond que sur la manière dont il est inséré entre les recommandations de Luqman à son fils. En effet, dans cette sourate, Allah Ta'ala a repris un certain nombre de recommandations faites par Luqman le sage à son fils. La première étant une mise en garde contre toute association à Allah. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ensuite, ce qui est frappant, c'est que l'on constate une interruption dans l'échange père-fils. Car dans le verset qui suit, ce n'est plus Luqman qui parle, mais Allah, pour nous parler de quoi ? De la bonté envers les parents. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans, sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. C'est dire à quel point ce sujet est important. Par ce procédé, Allah Ta'ala attire doublement notre attention. D'une part en opérant une coupure dans l'échange père-fils, d'autre part en plaçant la recommandation envers les parents juste après la mise en garde de Luqman contre toute association à Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant « Et si tes parents te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. C'est le seul cas où le croyant a le devoir de ne pas leur obéir. Cependant, cette autorisation à désobéir est très vite amortie par une autre recommandation qui a tendance à se perdre. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas de convenance. » Même s'il t'incite à faire la pire des choses, à savoir l'association, la première mise en garde de Luqman à son fils, ne leur obéit pas, certes, mais cela ne te donne pas le droit de te montrer désagréable à leur égard. Alors, chers frères et sœurs, Qu'en est-il de nous qui avons été élevés par nos parents dans la religion et la droiture? Ailleurs, dans Sourate al-Isra, il est encore dit « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et usez de bons comportements envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur les paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Évitons donc de faire preuve de légèreté dans notre comportement envers nos parents, ne serait-ce que d'un soupir, car ce soupir ou ce haussement d'épaule, aussi minime soit-il, nous sera ramené le jour du jugement, comme Luqman en a averti son fils dans son deuxième enseignement, qui fait immédiatement suite à la large parenthèse qu'Allah a réservée aux parents. Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Et le grain de moutarde fait référence ici au péché. Lorsque les parents atteignent un certain âge, attention à ne pas se montrer insolent, car c'est précisément à ce moment que le croyant joue sa place au paradis, comme il est dit dans le récit prophétique authentique, « Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, celui qui a connu ses parents âgés et qui, malgré cela, n'est pas entré au paradis. » Des parents qui quittent ce bas monde mécontents de nous, et c'est la perte assurée dans cette vie et dans l'au-delà. Ménageons donc la santé de nos parents et évitons de les accabler de tâches que nous sommes très bien en mesure d'accomplir, mais qu'ils ne sont plus en âge de supporter. Déployons pour eux les ailes de l'humilité et invoquons Allah pour eux. De même que ceux qui ont fondé leur famille, loin de leurs parents, malgré eux, prenez régulièrement de leurs nouvelles et visitez-les avec amour et respect, car c'est là que réside votre place au paradis. Sachez enfin que même s'ils ne sont plus de ce monde, qu'Allah comble de sa miséricorde tous les parents qui sont décédés, il nous reste quatre devoirs à accomplir en leur mémoire, comme il est dit dans le récit prophétique authentique. Un Médinois va trouver le messager d'Allah et lui dit « Ô messager de Dieu, y a-t-il encore des devoirs de bienveillance envers mes parents que je dois accomplir à présent qu'ils sont décédés ?»« Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te reste quatre devoirs à accomplir à leur égard. » Prier et demander le pardon de Dieu en leur faveur, exécuter leurs engagements, bien traiter leurs amis et entretenir les liens de parenté que tu as uniquement grâce à eux. Voilà ce que tu as à accomplir comme devoir à leur égard après leur mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements vis-à-vis de nos parents et qu'il nous rende dignes de leur satisfaction. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwab ar-rahim. Allahumma ihdina li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. اللهم ارحم آباءنا وارحم أجدادنا وارحم من علمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.